Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
My name is Progress.
Mon nom est Progress. J'ai été emmenée par une femme pour travailler ici comme prostituée et j'ai fait ce travail.
Elle s'appelle Progress, donc cette petite jeune femme, elle est du Nigeria. Elle a été emmenée comme tant d'autres en Russie pour servir de prostituée pendant la Coupe du Monde. Évidemment, on lui a fait miroiter un travail. Son histoire et celle de tant d'autres est racontée ce soir par Claude Brouillot. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Nigeria, en Belgique et en Russie. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 3, avec un président américain toujours en colère et aussi un candidat démocrate, un nouveau qui a presque 80 ans. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Fou. Une fois de plus, l'Inde et le Pakistan en conflit larvé. La médiation improbable aussi vient d'Arabie Saoudite et Jean-Marc nous racontera tout ça. Avant cela, nous restons en Europe, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Hès. Un jour dans le monde.
À 100 jours, ou presque, à quoi ressemblera le Parlement européen après les élections du 26 mai prochain? Ça vous paraît loin? Non, c'est demain. Ça vous paraît loin précisément parce que chez nous, en France, en tout cas, on en est encore à tergiverser sur les groupes parlementaires. Mais ce nouveau Parlement, de ce nouveau Parlement, dépend le visage de l'Europe demain. C'est donc fondamental. Or, les premières projections en siège ont été rendues publiques ce matin. Ce sont 27 sondages dans les 27 pays de l'Union. On a forcément enlevé le Royaume-Uni. J'ai presque envie de dire pour l'instant, parce que ça aussi c'est encore une autre mayonnaise. Bonsoir Sylvain Kahn.
Bonsoir Fabienne Saint-Hès.
Professeur à Sciences Po, vous avez écrit notamment Histoire de la construction européenne depuis 1945. C'est publié au PUF, ça a été publié l'année dernière. Est-ce qu'on peut d'abord et rapidement, pour ceux qui nous écoutent, faire une sorte de mise à plat, 705 sièges au Parlement et pas 751 d'ailleurs à cause de ces fameux Britanniques dont on parlait. Juste l'état des lieux au moment où on se parle, c'est quoi? L'état des forces là au moment où on se parle, c'est quoi? Pour qu'on comprenne ce qui est en train de changer.
L'état des forces, c'est le Parlement sortant, donc celui qui a été élu en 2014. Et l'état des forces dans le Parlement sortant, on va dire, c'est deux très grandes familles politiques qu'on appelle au Parlement européen le Parti populaire européen, qui est une espèce de grande famille des droites, et puis un autre groupe parlementaire qu'on appelle socialistes et démocrates, qui sont effectivement les socialistes et les sociaux-démocrates. Voilà. Bon. Et en fait, ces deux grandes familles politiques, à L2, ont la moitié des sièges depuis 1979, c'est-à-dire depuis la première élection du Parlement européen au suffrage universel. À l'époque, il n'y avait que 9 pays dans la construction européenne.
Ça veut dire, et c'est peut-être aussi, on y viendra, l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué l'Europe en ce moment. Ça veut dire que ce sont ces deux parties-là, au fond, qui font la pluie et le beau temps, et rien ne se passe en dehors de ces deux parties-là. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas?
On peut le dire comme ça, c'est-à-dire que rien n'est possible sans eux deux. Voilà. Pour autant, le Parlement européen a ceci de particulier, que comme c'est un parlement transnational, avec des gens qui sont quand même qui viennent potentiellement de 1500 listes différentes, la première chose qu'il faut, je crois, remarquer, c'est que c'était un peu un espèce de petit miracle que tous ces gens élus dans 28 pays différents, sur 1500 listes qui ont concouru les unes contre les autres, arrivent à se regrouper finalement dans 8 grands groupes parlementaires. Hein, donc c'est pas très fractionné en vérité, il y a des grandes familles politiques. Et donc à partir de là, le fait que ces deux grands groupes aient eu la majorité à eux deux ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, c'est quand même la droite et la gauche. Mais néanmoins, vous voyez, il y a un double, comment dire, il y a une double distinction. Il faut à la fois que les gens se mettent d'accord alors qu'ils viennent de pays différents, et en même temps qu'ils arrivent à se mettre d'accord, mais à géométrie variable, en fonction des sujets à traiter.
Alors, et c'est peut-être ça le premier enseignement de ce premier sondage qu'on a là sous les yeux, c'est que le fractionnement est plus fractionné encore, si je puis dire, qu'il l'était, parce que chacun garde, les deux premiers gardent leur emprise et leur majorité, mais perdent chacun en siège, en fait. C'est peut-être ça le premier enseignement. Non ?
Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement, le Parti Populaire Européen s'érode, encore une fois, c'est une projection, et puis si j'ai bien compris...
De 217 en question, à 183 sièges, alors voilà. Je ne veux pas qu'on embrouille les gens, mais enfin, c'est à peu près ce que ça veut dire.
Voilà, hyper, disons, le plus facile pour le Parlement européen, c'est-à-dire une élection nationale, évidemment, on fonctionne en pourcentage des intentions de vote, parce que c'est facile, mais le Parlement européen, on ne peut pas faire ça, parce que l'élection européenne va avoir lieu, en fait, c'est une collection de, jusqu'à présent, 28 et maintenant de 27 élections. Donc on ne peut pas dire, eh bien, telle famille politique, dans les intentions de vote, il va y avoir tant de pourcents. Par contre, ce qu'on peut faire, faire, et c'est comme ça qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, ben, on regarde chaque famille politique, quel est le pourcentage de sièges qu'elle obtient dans le Parlement. Donc aujourd'hui, le PPE a 28% des sièges dans le Parlement actuel, et il devrait passer à 25% des sièges, encore une fois, d'après cette projection. C'est une érosion, c'est pas un effondrement.
Non.
Par contre, les socialistes et sociaux-démocrates, eux, ils vont s'effondrer un peu parce qu'ils vont perdre 6 points. Enfin, toujours d'après cette projection. Mmh. Et ça correspond à ce qui se passe, hein. Je veux dire, faut pas imaginer, comment dire, y a pas de hasard, y a pas de surprise, en fait. Voilà. On voit bien qu'en France, les socialistes se sont effondrés. En Italie, ils se sont sérieusement cassés la figure en 2018. Et ben, dans les sondages que vous nous proposez de regarder aujourd'hui, eh ben, on retrouve ça. On retrouve un Parti démocrate italien qui est à 15% et un Parti socialiste français qui est à 6%. Vous voyez? Donc, les grands équilibres, finalement, tels qu'on les voit dans ce sondage, sont assez conformes au paysage d'aujourd'hui. Donc, le paysage d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement des partis qu'on appelle populistes, alors de droite radicale ou d'extrême droite, qui montent. Et ça, c'est comme ça depuis 10 ans. Mais ils montent pas tant que ça.
C'est là où je voulais vous emmener, Sylvain Kahn. En effet, il y a une espèce d'épouvantail qu'on nous fait miroiter en disant attention à cette montée des populistes. Oui, effectivement, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une certaine montée, mais il n'y a pas un écrasement, il n'y a pas une majorité, il n'y a pas de quoi. Même s'ils arrivaient tous à se mettre tous ensemble, ce qui serait quand même assez bizarre de vous à moi, parce que l'éventail est très très large, mais il ne peut pas y avoir de majorité populiste au moment où on se parle au Parlement européen.
Non. Il peut pas y en avoir. Alors d'abord, pour une raison que vous indiquez, qui est que, effectivement, les eurosceptiques souverainistes de droite radicale ou d'extrême droite sont actuellement divisés en 3 grands groupes parlementaires. Bon, et c'est pas par hasard. Donc, bien qu'ils se rapprochent, parce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est quoi qui est en train de se passer? C'est vrai. Alors, prenons des exemples pour être concret pour les auditeurs. En France, par exemple, c'est le Rassemblement National. Mmh. Mais ça peut être aussi, ils sont pas dans le même groupe aujourd'hui, au Parlement de Strasbourg, ça peut être aussi les eurodéputés de Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, qui, d'après ce sondage, le Rassemblement National, ex-Front National, serait à peu près 21 eurodéputés pour la France, et Nicolas Dupont-Aignan à 7. Aujourd'hui, ils ne siègent pas dans le même groupe parlementaire au Parlement européen. Est-ce que demain ils le feront? C'est peu probable. Mais après tout, on peut toujours fantasmer en disant que c'est possible. Prenons l'Italie.
Prenons la Ligue, par exemple, typiquement. Là, qui va s'additionner là aux voix de Marine Le Pen, si je comprends
c'est
bien
ça.
Comment ça va se passer.
Parce que, alors, disons, vous avez un grand groupe qu'on peut appeler eurosceptique, souverainiste, nationaliste et plutôt d'extrême droite. D'accord, en termes d'idéologie et de programme politique. Dans ce grand groupe qu'on appelle l'Europe des Nations et des Libertés, vous avez donc Marine Le Pen et le Rassemblement National pour la France, la Ligue de Matteo Salvini pour l'Italie.
Qui jusque-là n'avait que 6 députés, il faut le rappeler quand même, c'était rien en fait, ou pas grand-chose on va dire.
Pas... Oui, bah,
il y en aura combien plus 22 d'après ce que j'ai lu.
Donc là, ils montraient à 28, entre 25 et 30. Ça fluctue, hein. La Ligue a connu des hauts quand elle était alliée avec Berlusconi, elle a connu un gros bas au début des années 2010, et là, elle connaît de nouveau une dynamique, elle est à 17% aux élections italiennes de mars 2018, et là donc elle passerait à 30% aux prochaines élections européennes, tandis que la gauche de Matteo Renzi, qui avait fait un très très bon score aux élections européennes de 2014, hein, avec 40%, un truc complètement dingue pour la gauche aujourd'hui, passerait à 15%. Donc dans ce groupe de l'Europe des Nations et des Libertés, donc d'extrême droite, on a donc les Français, on aurait une grosse délégation italienne, on a également une délégation importante autrichienne. Alors pourquoi je parle des Autrichiens? Parce qu'ils sont actuellement au pouvoir au gouvernement autrichien en coalition avec la droite, d'accord? On aurait l'habituelle extrême droite hollandaise de Geert Wilders, qui est en général connu parce que physiquement, il a une coiffure qui fait qu'il est très photogénique et qu'il est connu un peu dans toute l'Europe pour ça.
En partie.
Voilà, et ça serait eux pour l'essentiel. Mais vous voyez, d'autres grands partis d'extrême droite européens, comme par exemple l'AFD allemande, ne siègent pas dans ce groupe-là, et c'est la même chose pour un grand parti de droite radicale qui est considéré un peu comme le chef de file de l'illibéralisme, c'est-à-dire le Hongrois Viktor Orban et son parti de la Fidesz. Eux, ils siègent au PPE, c'est-à-dire le grand groupe des droites.
Alors justement, est-ce qu'on est sûr que la Fidesz va rester affiliée à ces gens-là, c'est-à-dire à la droite, on va dire classique, hein, désormais c'est comme ça qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens du PiS polonais, par exemple? Est-ce que qui ont frappé à cette porte-là, mais pour l'instant
nous,
la porte est fermée?
Vous et moi, Fabienne Sintès, on fait rien.
Alors nous, ça c'est clair.
C'est eux qui vont le décider.
Ça c'est sûr.
Mais
qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, par exemple? Le PiS a frappé à cette porte-là, qui pour l'instant ne s'est pas ouverte. Qu'est-ce que ça donne en termes de découpage après ces espèces d'alliances de circonstances?
La question que vous posez met le doigt sur un phénomène tout à fait palpable depuis 5 voire 10 ans, que moi j'appelle, faute de mieux, hein, et on peut évidemment discuter de l'expression que je vais employer, d'une espèce d'extrême droitisation de l'idéologie de la droite. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que le fait que Viktor Orban est... alors Viktor Orban, bon, en deux mots, c'est quelqu'un qui, avec son parti, la Fidesz, est au pouvoir depuis 2010. Il a gagné 3 élections de rang, avec 49% des voix, pour les dernières qu'on a eues en 2018. Et au fur et à mesure que les années passent, il érode l'état de droit. Voilà. Hein. Alors, il a inventé un concept qui s'appelle la démocratie illibérale, pour dire qu'il peut y avoir des démocraties qui ne sont pas des démocraties libérales classiques. Et du coup, il s'en prend à la liberté de la presse, il s'en prend au pluralisme politique, il est xénophobe, il est antisémite. Et il fait ça de manière, on pourrait dire, assez subtile, par petites touches, par petits pas, parce qu'il tient beaucoup à ce que son pays reste dans l'Union européenne, et il tient beaucoup à ce que son parti reste dans la grande famille des droites. Voilà. Bon, de même, le gouvernement danois actuel, qui est un gouvernement droite-centre-droite, pour ceux de vos auditeurs qui ont vu et aimé la série Borgen, Borgen avait très très bien anticipé, quand la droite et le centre-droite sont au pouvoir en coalition, ils sont actuellement soutenus, sans participation, par le parti du peuple danois, qui est un parti xénophobe, d'extrême droite, très très anti-migrant, et qui actuellement plaide pour, c'est rigolo si j'ose dire, ou intéressant, par la construction d'une vraie frontière métallique, pour lutter contre la peste porcine qui est amenée par les sangliers. Et le parti dont je viens de vous parler, le parti des le parti du peuple danois, a tout de suite dit on va faire cette barrière, c'est très important, puis on pourrait l'élever de 4 ou 5 mètres pour éviter aussi qu'avec les sangliers, les migrants ne passent.
Tant qu'à faire.
Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que au PPE, comme on le voit par ailleurs dans un certain nombre de politiques nationales, si vous voulez, eh bien, sur la question des migrants ou par rapport à la xénophobie, on voit bien comment il y a un glissement vers une radicalisation idéologique des gouvernements de droite. Après tout, on pourrait même, il y en a même qui le disent, que quand on voit comment un certain nombre de législations sont prises, on va dire, pour un peu limiter le droit de manifester, on peut dire aussi qu'après tout, il y a des gouvernements de droite ou de centre-droite qui glissent un peu vers des idéologies qui sont plus de droite radicale. Donc, ce que je veux dire par là, Fabienne Synthèse, c'est que, à mon avis, Viktor Orban va rester au sein du PPE, parce qu'en un sens, il arrive davantage à influencer les travaux du groupe
de l'intérieur, plutôt que d'être dans un tout petit groupe qui finalement n'aura pas de poids, au fond.
Qui, d'après le sondage dont on discute aujourd'hui, aurait 8% des sièges. Voilà. De la même manière que Forza Italia, le grand parti de Berlusconi, qui était relativement fort jusqu'à il y a 5 ans, qui là est promis à tomber à 8% dans ce sondage-là, préférait rester dans le PPE, quand bien même il était déjà, à certains égards, un parti populiste qui prenait des libertés avec l'état de droit, tout en restant dans la grande famille des droites. Voilà. Or, comme les grands partis de droite classiques comme la démocratie chrétienne allemande, par exemple, ou les républicains français, sont promis à une érosion, voire à un effondrement, la relative stabilité de cette grande famille des droites au sein du Parlement européen va quand même se traduire certainement par un glissement idéologique vers, on va dire, une idéologie un peu plus radicale du côté de la droite.
Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les Verts sont en baisse, encore une fois d'après la projection, dans une baisse assez certaine? Pourquoi est-ce que les Verts, quand même, un petit peu, 45-52, ça fait une perte de sièges?
Oui, mais attention,
est-ce que ça dit quelque chose?
On passe de 751 sièges à 705.
Alors, c'est vrai aussi.
Donc, en pourcentage, en fait, c'est quasiment stable, en pourcentage de sièges dans les projections. Ce que ça dit, alors d'abord, on peut remarquer...
Je vous pose la question parce qu'on a l'impression justement que la force qui émerge en ce moment, c'est bien celle-là. Dans beaucoup de pays d'Europe, on l'a vu très récemment dans des élections.
Il y a quelques pays d'Europe où vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une vraie poussée, en particulier en Allemagne.
Par exemple.
En particulier également en Lettonie, où d'après cette projection, les Verts lettons seraient le premier parti de Lettonie. Alors ça ne fait que 5 eurodéputés. Mais en revanche, dans l'ensemble, les Verts, le courant écologiste est quand même assez faible dans tous les pays de l'ancienne Europe centrale et orientale, et ils sont relativement faibles dans les pays du sud de l'Europe. Donc en fait, ils vont beaucoup monter grâce à l'Allemagne, un petit peu grâce à la Lettonie, mais sinon, vous voyez, ils ne sont pas présents dans assez de pays en Europe pour que ça se traduise par une poussée. L'autre poussée significative d'après ce sondage, outre le parti d'extrême droite qui, encore une fois, passerait de 4 à 8% des sièges, c'est le parti dit des libéraux, qu'on appelle ADLE, pour Association des démocrates et des libéraux en Europe, l'équivalent en France, si vous voulez, du MoDem, ou probablement de La République En Marche.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il grimpe, puisque subitement, les sièges de La République En Marche et du MoDem seront dans ce gros plan, en fait.
Voilà, ça fera un peu plus, mais... Ils grimpent aussi dans dans d'autres pays. Ils sont forts en Belgique, ils sont forts en Hollande, ils sont forts en République tchèque, par exemple. Hein.
Une dernière chose, Sylvain Kahn, parce que vous l'avez évoqué, effectivement, vous l'avez dit, 751, c'était le Parlement d'aujourd'hui. 705, pardon, oui, c'est ça.
Ça sera le Parlement
je l'ai devant
de
les 2019. Yeux. 705 pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un groupe qui est de pur souverainiste qui, lui, pour le coup, alors il perd beaucoup.
ECR.
Exactement, parce que là, il était fait.
L'Europe des conservateurs et des réformistes.
Exactement, pas intégralement, enfin, était beaucoup fait des Britanniques. Est-ce que cette porte-là est intégralement fermée, honnêtement? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit sur les Britannique pour les prochaines élections, ou le spécialiste que vous êtes dit, moi, je me mouille pas, j'en sais rien, en fait.
Ah non, justement, si les spécialistes se mouillent pas, je sais pas qui va se mouiller, donc je prends le risque de dire des
bêtises.
Allez-y,
plongez.
Voilà, je plonge. Dans l'état actuel des choses, il y aura pas de député britannique au Parlement européen.
Parce que ce sera fini.
Parce que ça sera fini.
C'est fini en mars.
On peut prolonger le délai de négociation jusqu'au 2 juillet, puisque le Parlement actuel, le Parlement sortant, sera, siégera jusqu'au 2 juillet. Mmh. Mais moi, je pense même qu'on peut même envisager, si c'est nécessaire, de prolonger la période de négociation, puisque pour l'instant les Britanniques n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, en envisageant, y compris juridiquement, que cette période se prolonge au-delà du 2 juillet, en trouvant le moyen juridique pour dire que les Britanniques ne peuvent pas voter raisonnablement pour un Parlement, sachant qu'ils vont sortir, si c'est pas dans 2 mois, c'est dans 6 mois ou dans 8 mois au plus tard.
De toute façon, avant, normalement, la fin des mandats, des mandats de chacun. Donc,
oui,
à la limite,
et encore une fois, voilà. Et même si ça devait arriver en 2019 un peu après, je pense qu'on peut trouver le moyen juridique pour faire en sorte que les Britanniques n'aient pas à voter quoi qu'il arrive. Parce que là, ça deviendrait véritablement ubuesque.
Ah ben, comme si ça n'était pas déjà, vous me direz. Mais écoutez, on vous fera réécouter ça quand ce sera à nouveau encore plus ubuesque. Ça vous donnera l'occasion de revenir, Sylvain Kahn. Merci
avec
mille
plaisir.
Fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Russie avec les associations qui essaient de sauver des femmes qu'on a forcées à se prostituer pendant la Coupe du Monde. Elles arrivaient d'Asie, elles arrivaient d'Afrique. La plupart ne veulent pas rentrer chez elles aujourd'hui. Pas les mains vides, en tout cas. Ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier au Nigeria, notamment sonnée par des élections reportées. Le Monde selon Trump, saison 3 et Grégory Phillips. Greg, bonsoir. Ne me dites pas que Donald Trump est vraiment en lice pour être prix Nobel de la paix.
En tout cas, l'idée a été lancée par les Japonais et Trump dit qu'il ne l'aura probablement pas. Je vous en dis plus tout à l'heure.
S'il vous plaît, ouais. Le Monde à l'envers. Jean-Marc Faure, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Attention poudrière entre l'Inde et le Pakistan, mais pourquoi pire qu'avant?
Mais presque personne n'en parle, mais cette fois-ci ça sent un peu le roussi, je vous expliquerai pourquoi.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète continue, il passe par l'Australie. Voici Gabriella Silmi sur France Inter. Sweet About Me.
Less is
s'appelle Gabriela Silmi sur France Inter. Sweet About Me, on change de continent, tiens, et on file sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier, sonnez les Nigérians après le report surprise de leur élection.
Report pour des problèmes de logistique officiellement. Des bulletins et des urnes ne sont pas arrivés à temps pour le vote. L'annonce a été faite en pleine nuit samedi, quelques heures avant l'heure prévue d'ouverture donc de ces bureaux de vote. Et depuis, le pays fait les comptes. Ce décalage d'une semaine du scrutin pourrait coûter plusieurs milliards de dollars. Car on parle ici du Nigeria, géant de l'Afrique de l'Ouest. 190 millions d'habitants, dont 80 millions d'électeurs. Et pour beaucoup, se rendre au bureau de vote est un périple. Ils ont appris le report trop tard. Ici, un habitant de Dora, interrogé par le correspondant de la BBC. Il raconte qu'il est parti la veille et il raconte aussi les difficultés du voyage quand on n'a pas d'argent pour les transports publics. C'est un sacrifice financier. Et là, donc, il se retrouve bloqué et donc très en colère. Alors beaucoup, comme lui, ont quitté la ville pour se rendre dans leur région d'origine où ils sont inscrits sur les listes électorales. D'ailleurs, en prévision de ces grandes transhumances, la plupart des entreprises ont fermé vendredi l'immense port de Lagos aussi pour permettre aux salariés de faire le voyage. Le patron de la chambre de commerce de Lagos, la plus grande ville, estime à 1,5 milliard de dollars les pertes sèches. Et au-delà, les économistes craignent une érosion de la confiance des investisseurs au Nigeria, une réputation entachée. Sur le long terme, certains parlent de 9 à 10 milliards de dollars de pertes, 2 points de PIB. Sans parler du coût politique, de la colère de tout un pays, elle devrait se faire entendre dans les urnes pour les scrutins présidentiels, législatifs et sénatoriaux. Ce sera donc le week-end prochain.
La Belgique s'attaque enfin à la rénovation de ses prisons.
Enfin, car depuis des années, les critiques pleuvent sur les cellules de notre voisin. Un rapport très sévère du Comité européen pour la prévention de la torture, des avis internes sans concession, et puis cette affaire avec les Pays-Bas voisins. C'était à l'été 2017. Ils ont refusé de transférer des prisonniers en Belgique à cause de ces rapports. Écoutez Polly van Dijk, porte-parole du tribunal d'Amsterdam à l'époque. Un rapport a montré que pendant, par exemple, la période de grève, les détenus étaient restés pendant près de 24 heures d'affilée dans leurs cellules. Le comité dit aussi que trop peu de mesures sont prises pour éviter cela lors des prochaines grèves. Alors, les Pays-Bas pointent aussi la vétusté des prisons belges. Plusieurs datent en effet du 19e siècle, plus du tout aux normes actuelles. Un arrêté royal vient de modifier la loi sur l'administration pénitentiaire. Elle précise les futures conditions de détention. Le pays se donne 20 ans, toutefois, beaucoup pensent que la tâche est tellement grande que la Belgique n'y arrivera pas.
À chacun son fait divers fondateur, Amélie, la Russie rouvre aujourd'hui son plus célèbre cold case.
Oui, le Royaume-Uni a Jack l'Éventreur, les États-Unis leur tueur du Zodiac, les Russes, eux, ont l'accident du col du Dyatlov. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire.
Pas du tout.
Mais le bureau du procureur général de Russie vient d'annoncer la réouverture de ce dossier encore bien mystérieux, 60 ans après les faits. Ça remonte au 23 janvier 1959. 9 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural partent en randonnée dans les montagnes. À leur tête, Igor Dyatlov, étudiant ingénieur, il donne son nom à l'affaire et au col de la montagne où le drame s'est joué. Car au bout de quelques jours, on a retrouvé leur corps par groupe de 2-3, plusieurs kilomètres du campement. Pour certains, ils étaient en chaussettes, voire pieds nus. Et l'enquête a conclu assez vite que 6 d'entre eux étaient morts d'hypothermie, les 3 autres d'une blessure grave. Et la cause officielle de la mort, ce sont des forces naturelles auxquelles on ne peut pas résister. Ouais, c'est un petit peu flou. Un tel empressement à conclure le dossier a tout de suite alimenté les théories les plus farfelues. Et à propos des entailles, par exemple, dans la toile de tente.
Pour moi, ce sont les étudiants qui les ont faites pour s'échapper de la tente.
Alors voilà, l'une des nombreuses émissions qui ont tenté depuis de percer le mystère. Celle-ci s'interroge notamment sur la présence d'un yéti, un singe géant qui aurait effrayé les étudiants. D'autres ont vu une lumière dans le ciel, un ovni. Et puis certains pensent à un test militaire d'une arme secrète. Les étudiants témoins devenus gênants auraient été assassinés. Alors le mois prochain, des enquêteurs retournent sur le terrain. Ils ne travailleront que sur 3 théories, un ouragan, une plaque de neige ou alors une avalanche. 3 hypothèses seulement issues d'une liste officielle de 75 théories, de quoi faire douter encore les sceptiques.
Incroyable histoire. Allez, on ne quitte pas la Russie pour l'escale reportage. Amélie, merci beaucoup, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
les routes.
France Inter.
Je pense que c'est un
La Russie qui, 9 mois après la Coupe du Monde, essaie de se défaire des prostituées arrivées en nombre d'Asie ou d'Afrique. Elles ont bénéficié du régime sans visa pendant l'événement. Beaucoup croyaient évidemment venir pour un travail avant de se retrouver piégées par des réseaux de prostitution dans la capitale russe. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Correspondant de France Inter en Russie. Claude, aujourd'hui des organisations essaient de venir en aide à toutes ces femmes comme Alternativa qui parle de l'arrivée en Russie, tenez-vous bien, de 5000 jeunes femmes pendant la Coupe du Monde.
Il y a d'autres filles dans la rue, les filles noires. Des Nigériennes. Je ne suis pas la seule. Il y a un côté de la rue pour les filles blanches et l'autre côté, c'est pour les filles noires.
Victoria a 22 ans. Elle est arrivée à Moscou en juin dernier en provenance du Nigeria. Des contacts dans son pays lui ont parlé d'un travail en anglais pendant la Coupe du Monde. Elle s'est retrouvée prisonnière d'un réseau de prostitution retenue dans un appartement par des souteneurs nigérians comme elle, qui l'ont obligée pendant 3 mois à se prostituer la nuit dans le quartier de Kankova, au sud-est de Moscou.
J'ai eu peur parce que l'endroit est très sombre. Je veux rester en Russie. Parce que je ne veux pas rentrer au Nigeria. Je ne peux pas rentrer les mains vides pour m'en sortir et aider ma famille.
Victoria s'en est sortie grâce à l'association russe Alternativa qui lutte contre la traite des êtres humains. Yulia, l'une des responsables, travaille depuis 3 ans avec une 20aine de permanents.
Здравствуйте, добро пожаловать. Пожалуйста, проходите.
Merci.
Quand la Coupe du Monde a commencé aussi, on a eu beaucoup d'applications des femmes nigériennes qui venaient d'être emportées en Russie, qui avaient notre numéro. Ils demandaient au secours, s'il vous plaît, sauvez-moi, aidez-nous. Nous sommes une dizaine de filles dans cet appartement, etc. Donc, avec les policiers, on organisait des raids pour découvrir ces appartements et pour les faire sortir, en sachant que la police moscovite ne parle jamais anglais. On a quand même accumulé très grande base de données avec les preuves. Maintenant, les deux criminels sont en prison. Après l'investigation, ils vont, je pense, rester en prison une dizaine d'années.
Relogés dans Moscou par l'association qui s'efforce de régulariser leur situation, ces jeunes femmes d'origine africaine, pour la plupart, apprennent d'abord, comme Progress, 20 ans, à raconter leur histoire, en espérant ensuite se reconstruire sur place.
Mon nom est Progress. Je suis arrivée à Moscou le 24 juin. J'ai été appelée pour trouver un travail ici, pour aider ma famille. J'ai été emmenée par une femme pour travailler ici comme prostituée, et j'ai fait ce travail. Ils peuvent abuser de toi, ils te battent. Je ne voulais plus faire ce travail. C'est pour ça que je suis allée à la police. Je veux vraiment trouver un travail ici. Je ne veux pas rentrer.
Progress fait partie des 120 jeunes femmes d'origine africaine sauvées par Alternativa au cours des 9 derniers mois. Oleg, le fondateur de l'association qu'il dirige depuis 2011, n'avait jamais rencontré sur Moscou un tel afflux de victimes des réseaux de prostitution.
D'après nos estimations, durant la Coupe du Monde, les réseaux de prostitution ont fait venir environ 5000 femmes en Russie, dans le but de les intégrer à leur business. Parmi elles, il y avait beaucoup de femmes piégées qui venaient avec l'intention de trouver un vrai travail en Russie. Pour moi, c'était très surprenant le cas de ces femmes nigérianes. Bien sûr, elles ont eu la chance d'être libérées par nous. Mais malgré ça, elles ne font pas confiance aux étrangers extérieurs, à leur communauté. Elles appartenaient à leur maman, les femmes qui tiennent les bordels et qui maîtrisent le vaudou dont elles ont peur. Pour éviter l'essor, elles devaient travailler jusqu'à rapporter 50 000 $.
En Russie, l'organisation de la prostitution est un délit pénal, mais les prostituées elles-mêmes, si elles ne portent pas plainte, ne font l'objet que de simples contrôles administratifs. Yulia d'Alternativa s'efforce de faire le maximum pour que celles qui s'en sont sorties ne replongent pas.
Ces filles-là, ils ont de la morale, elles ont volonté d'en sortir. C'est pour ça que j'essaie d'être optimiste, mais j'ai vu des cas quand, après une cinquantaine d'années, les femmes elles rentraient dans la prostitution volontairement. Quand tu as déjà passé par ça, c'est vraiment très dramatique et ça casse quelque chose à l'intérieur. C'est compliqué. Il faut bien sûr être en très bon psychologue et être toujours à côté d'elle, et nous malheureusement on n'a pas de possibilité de faire ça.
Alternativa Moscou vivait jusque-là difficilement avec des dons et de l'argent de son fondateur. En attendant les aides publiques, l'association vient de lancer une souscription sur la plateforme de financement Patreon pour faire face, dit-elle, au nombre grandissant de jeunes femmes étrangères victimes de la prostitution en Russie.
Merci beaucoup. Formidable reportage signé Claude Brouillot avec nous depuis Moscou. Blik Bassi vient du Cameroun et le titre s'appelle Woni, c'est dans la playlist de France Inter.
Loyambi nenge likere wongi Urbem balele limunu wongi Sogolwe mabi nenge likere wongi Loyambi nenge likere wongi Ngeni yesi yibe yo Basori nigil nibe yo Loyesi biwele nikere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Lo yesi ho Inyonyo ninyo Lo yesi ho Iho ni mao Lo yesi minenge likere wongi Papire din chomo kikipitong bimo Ngemwe mwoki biperne ni munu wongi Inyobe abiwel ni bezgi wongi Hata ngongemle long Pengeni yoki iwo Mumye abiwel ni bezgi wongi Ni bezpana dinkirne ni kere wongi Ilongye si ho Nyo niño Ino yesi ho Iho ni mao
Ambombo kala ni mee
Ino yesi ho Iho ni wongi
Yele
Ino yesi ho Iho ni mao.
Un jour dans le monde, Blik Bassi, un titre qui s'appelle Woni et ils viennent du Cameroun.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Esse.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le monde selon Trump, saison 3. Et Grégory Phillips, qui est à New York ce soir, Grégory, puisque c'est, on va tout dire, hein, c'est jour férié chez vous aujourd'hui, ce lundi. Alors, avec cette semaine, de nouveaux rebondissements quand même dans l'enquête russe, ces fameuses investigations lancées pour tenter de déterminer si pendant la campagne présidentielle, il y a eu collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des agents russes. Une interview explosive diffusée hier sur CBS, c'était dans 60 Minutes, Grégory.
Oui, le long entretien qu'Andrew McCabe, ex numéro 2 du FBI, a accordé à cette émission 60 Minutes, c'est dans lequel celui qui a été limogé il y a un an par Trump raconte plusieurs choses assez extraordinaires, Fabienne. D'abord, McCabe rappelle pourquoi le Bureau fédéral a ouvert une enquête en contre-espionnage juste après le limogeage du numéro 1 de l'organisation de James Comey. Ça, c'était déjà connu. C'était pour déterminer si, en virant Comey, Donald Trump s'était rendu coupable d'obstruction à la justice et avait tenté de freiner cette enquête russe. Deuxième point évoqué par Andrew McCabe, le moment où le numéro 2 du département de la justice, il s'appelle Rod Rosenstein, évoque l'idée ou envisage en tout cas d'avoir recours au 25e amendement de la Constitution américaine. Vous savez, celui qui prévoit le remplacement du président en cas de destitution. Écoutez Andrew McCabe.
Le fait d'avoir recours au 25e amendement, Rod en a parlé avec moi et a soulevé ce problème, tout en se demandant combien de membres du cabinet du gouvernement seraient prêts à soutenir une telle initiative.
Il semble donc que ce que le numéro 2 du département de la justice avait en tête, c'était de se débarrasser du président des États-Unis.
Je ne peux pas vous confirmer cela, mais ce que je peux dire, c'est qu'il était très préoccupé par le président, par ses capacités et par les intentions du président à cette époque-là.
Wow. Voilà, et ce que Andrew McCabe raconte un peu plus tard sur CBS est encore plus hallucinant, vous allez voir Fabienne. Il décrit comment ce même Rod Rosenstein, donc numéro 2 du ministère de la Justice à Washington, propose de piéger le président.
Le numéro 2 du département de la justice a proposé de porter sur lui un micro et d'aller à la Maison Blanche. Il a dit « Je ne suis jamais fouillé quand j'y vais, je peux facilement porter sur moi du matériel d'enregistrement ». Je ne sais pas ce que Rod espérait à ce moment-là en disant cela. Mais la raison pour laquelle quelqu'un veut utiliser un micro caché, c'est pour amasser les preuves. Et dans ce cas précis, pour essayer de connaître les raisons pour lesquelles le président a démis de ses fonctions le patron du FBI, James Comey.
Voilà, alors il faut préciser, Fabienne, que cette interview a été diffusée alors que demain, Andrew McCabe sort un livre dans lequel il raconte comment le FBI travaille sous la présidence Trump. Dire aussi que rien de tout ça n'a eu lieu finalement, ni le recours au 25e amendement, ni les micros cachés. Mais évidemment, c'est du pain béni pour Donald Trump qui, encore un peu plus fort que d'habitude, j'ai envie de dire, peut crier sur Twitter à la chasse aux sorcières et au complot contre lui, même au plus haut niveau de l'État.
Et Dieu sait qu'il crie en ce moment. Hier, très agacé, Donald Trump, par un sketch diffusé dans la fameuse émission Saturday Night Live sur NBC et dans lequel, comme souvent, c'est Alec Baldwin qui fait Donald Trump.
Oui, Baldwin est celui qui imite Trump dans SNL et là, samedi soir, il rejouait la conférence de presse de vendredi dernier à la Maison Blanche, conférence durant laquelle le président américain a annoncé son urgence nationale, vous savez, pour construire le mur à la frontière mexicaine. Voici un extrait de la parodie.
Thank you very much everybody. I'm here to declare a very urgent, important national emergency.
Voilà, et donc Baldwin s'amuse de cette... Il le fait très bien, il s'amuse de cette très longue conférence de presse que Trump a donnée vendredi matin à la Maison Blanche. On y était, en vérité, la parodie est aussi décousue que l'original. C'est vrai que vendredi, Trump passait d'un sujet à l'autre sans beaucoup de logique, évoquant le mur à la frontière, puis ses résultats économiques, puis la Corée du Nord, puis la peine de mort en Chine pour les trafiquants de drogue. Eh bien, le sketch est à peu près du même acabit, mais il a provoqué, c'est vrai, la colère présidentielle. Le président qui, dès hier matin, a estimé sur Twitter que le Saturday Night Live et le diffuseur NBC méritaient, je cite, un châtiment sans préciser lequel.
Allez, on termine avec trois questions rapides et réponses rapides. On est déjà en retard, Grégory. Je le disais, c'est jour férié, President Day. Que fait Donald Trump ?
Alors, très rapidement, il est en Floride, golf ce matin, puis cet après-midi, voilà, et cet après-midi, discours à Miami devant la communauté vénézuélienne.
Deuxième question, est-ce qu'il aura donc un jour le prix Nobel de la paix ?
Je ne sais pas, mais plusieurs médias japonais affirment en tout cas que les autorités nippones ont écrit au comité Nobel au printemps, proposant que Trump soit lauréat par rapport à ses efforts sur la crise coréenne. Le premier ministre Abe ne confirme pas, mais vendredi, lors de la conférence de presse dont on parlait à l'instant, Trump a en quelques mots évoqué le Nobel de la paix. Obama l'a eu en 10 secondes. Moi, je ne l'aurai probablement jamais, a-t-il ironisé. Faut bien reconnaître que sur ce point-là, en tout cas, Trump n'a pas tout à fait tort.
Allez, très très vite, Bernie Sanders, oui ou non ?
Oui, a priori, selon le site Politico, il sera candidat à l'investiture démocrate pour 2020. Un détail, tout de même, Bernie Sanders aura 79 ans dans 2 ans.
Allez, Grégory Phillips, Le Monde selon Trump, saison 3. Merci Grégory.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, on n'en parle quasiment pas dans les médias, mais la tension est très forte depuis jeudi dernier au Cachemire, cette région de l'Inde revendiquée par le Pakistan. Ça fait 70 ans que ça dure, sauf que cette fois-ci, peut-être que c'est plus inquiétant que d'habitude. Ne sous-estimons pas cette poudrière, c'est votre monde à l'envers.
Je vais vous dire, cette affaire sent l'escalade à plein nez. Commençons par les faits, sinon vous n'allez rien comprendre puisque vous le disiez, le sujet est peu présent dans les médias. Tout a donc commencé jeudi dernier. Un attentat à la voiture piégée vise un convoi de 78 camions de réservistes paramilitaires indiens à Puwalma au Cachemire, c'est à l'extrême nord de l'Inde. Les explosifs sont puissants, 41 morts. Dans cette région de 13 millions d'habitants, la seule à majorité musulmane dans tout le pays, qui a déjà connu de guerre, c'est l'attentat de ce type le plus meurtrier depuis 30 ans. Dès vendredi, les rassemblements se multiplient en Inde. À New Delhi, la capitale, les manifestants brûlent des effigies des dirigeants pakistanais. Il faut dire qu'entre-temps, l'attentat a été revendiqué par le groupe islamiste Jaïch-e-Mohammed, l'armée de Mahomet, dont le chef Massoud Azhar circule librement au Pakistan. Et le Premier ministre indien annonce « Nous allons faire payer le prix fort, nos forces armées ont toute latitude pour définir la riposte ». La presse indienne ne parle que de ça, ne cherchez pas autre chose. Les appels à la vengeance se multiplient. Et ce matin, première opération militaire indienne, 9 morts lors d'un raid antiterroriste à l'issue d'une chasse à l'homme non loin du lieu de l'attentat. On parle aussi de mesures de rétorsion économique, mais il faut s'attendre à bien davantage.
Mais alors pourquoi ce serait plus dangereux cette fois-ci que toutes les fois où la tension est montée au Cachemire?
Il y a des tas de raisons. La première, c'est le bilan très élevé de l'attentat, je vous le disais. Le fait que depuis 2 ans, les escarmouches se multiplient avec des centaines de violations du cessez-le-feu à la frontière. L'an dernier, les accrochages ont fait plus de 500 morts. C'est un record depuis 10 ans. La deuxième raison, c'est le contexte électoral. L'Inde s'apprête à voter, ça sera en avril-mai, et le parti au pouvoir, le BJP de Narendra Modi, a besoin d'apparaître fort. D'autant que son grand rival, on le sait, le parti du congrès de la famille Gandhi, semble en plein renouveau. Troisième raison, le nationalisme hindou est en plein essor, alimenté par le pouvoir, et il vise d'abord le grand voisin musulman pakistanais. Vous en voulez encore des raisons ?
Allez-y.
Alors en voilà. Les deux armées totalisent près de 700 000 soldats. J'ai bien dit 700 000. Le long de cette frontière de 800 km, c'est la zone la plus militarisée au monde. Les deux pays possèdent l'arme nucléaire. Le Pakistan s'est régulièrement déclaré prêt à l'utiliser. Et puis, il y a le contexte international avec son climat de guerre froide. Un conflit par procuration entre Washington et Pékin, ça ne peut pas s'exclure. Et pour faire vite, Pékin soutient le Pakistan tandis que Washington soutient l'Inde. Donc répétons-le, il y a un vrai risque d'engrenage et ça ne sent pas bon.
Et puis là, au milieu de tout ça, Jean-Marc, un émissaire de paix, assez baroque,
oui,
on va dire ça comme
c'est
ça.
C'est moins qu'on puisse dire, parce qu'on parle de qui ? Du prince saoudien MBS. Oui, le MBS, hein, fortement soupçonné d'avoir fait assassiner le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le MBS, en grande partie discrédité en Occident. Eh bien, le prince saoudien, hasard du calendrier, est au Pakistan depuis hier et il sera en Inde demain. Dans les deux cas, il arrive avec un carnet de chèques bien rempli, signature de contrat à gogo. Il y en aura pour 20 milliards de dollars au Pakistan. En Inde, l'Arabie saoudite est déjà le 4e partenaire commercial du pays. C'est une belle occasion pour MBS de redorer son blason en jouant les intermédiaires. L'Arabie Saoudite a d'ailleurs appelé ce matin à la désescalade entre les deux pays. En plus, après sa visite en Inde demain et après-demain, le prince saoudien se rendra ensuite en Chine, dont le rôle est crucial dans ce dossier. MBS, il est donc peut-être en train d'endosser un rôle assez improbable de courtier de la paix dans cette affaire. C'est pas pour autant qu'il va obtenir des résultats. Il se passera sans doute rien tant qu'il sera dans la région. Ni l'Inde, ni le Pakistan, on l'a compris, ne veulent se brouiller avec lui. Une fois qu'il aura tourné le dos, alors là, on pourrait entrer en terre inconnue.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, tous les jours, dans un jour du monde, dans le monde. Merci, le 18-20, la suite, c'est juste après.